Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma, même s'ils sont fermés. C'est l'occasion ou jamais justement de voir ou revoir des films que vous avez peut-être loupés et qui racontent pourtant tellement bien notre société. Et justement, aujourd'hui dans notre récit, il sera question de consentement. Alors qu'il y a un an, Adèle Haenel témoignait chez nos confrères de Mediapart des attouchements et du harcèlement sexuel qu'elle avait subi de la part du réalisateur Christophe Ruggia. On connaît la suite, Polanski, les Césars et le cinéma qui s'empare de la question. Mercredi prochain devait sortir Slalom, qui raconte l'histoire d'une jeune espoir du ski sous l'emprise de son entraîneur. On recevra sa réalisatrice Charlène Favier, car même si le film est décalé, la question reste plus que jamais d'actualité. 14h30, les films de ma vie, c'est la romancière Lola Lafont qui partagera avec nous ses souvenirs de cinéma. Et puis juste après, on maintient notre débat des critiques, mais sous forme aménagée, puisqu'on débattra des films qui viennent de sortir sur vos plateformes, notamment le nouveau Olivier Marshall ou le nouveau Sofia Coppola, ou qui viennent de sortir en DVD, VOD, par exemple Fille de joie. On en débat à la fin de cette émission. Mais d'abord donc, notre récit.
Europe 1. Le récit.
Qui ne dit mot consent, cette maxime latine devenue proverbe daterait du XIIIe siècle et elle est très largement appliquée dans les dessins animés ou films avec lesquels nous avons grandi. Prenez Blanche-Neige par exemple, des frères Grimm, adapté pour la première fois sur grand écran en 1937.
Quand elle mordra dans cette pomme pour goûter à ce fruit mortel, son souffle s'arrêtera, son sang se glacera et je serai la plus belle sur terre.
Lorsque le prince vient pour l'embrasser, Blanche-Neige, alors qu'elle a été empoisonnée par cette satanée pomme, elle ne donne pas son accord, puisqu'elle est inconsciente, morte même. Certes, l'objectif du prince, c'est de la ramener à la vie, mais déjà, on ne demande pas son avis à Blanche-Neige.
Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château.
Grotesque.
Et les exemples sont nombreux dans l'univers des Disney. La Belle au bois dormant, par exemple. Alors cette fois, la princesse est endormie depuis un siècle. Et une nouvelle fois, seul le baiser du prince peut la réveiller. Et une nouvelle fois, personne ne lui demande son avis. Et pour cause, elle dort.
Voyez là, le château du roi Stéphane. Sachez que dans la plus haute tour, une belle attend son prince charmant. La princesse Aurore.
Alors je vous entends en train de râler, c'est romantique, c'est un conte. Oui, c'est vrai, mais déjà, les enfants sont bercés dans cette idée de baiser volé. D'ailleurs, cette histoire du romantisme a souvent été un bon prétexte pour le cinéma. Même si la femme dit non, la forcer un peu, ça serait romantique. Une femme qui dit non, finalement, c'est qu'elle se fait désirer. Ça, l'un de nos héros les plus célèbres en est persuadé. Mais si, si je vous dis un agent secret, séducteur au service de la couronne britannique... Matricule 007.
Je m'appelle Bond, James Bond.
Personne ne se refuse à James Bond. Ça fait même partie du jeu de lui résister un peu. Prenez Goldfinger, par exemple, en 1964. Sean Connery, qui porte alors le costume du célèbre agent secret, essuie plusieurs refus depuis Sigalore.
Laissez tomber, ça ne m'intéresse pas.
Et qu'est-ce qui vous retient de voir les choses comme je les vois?
Ce sont les moyens qui vous manqueraient.
Qu'en savez-vous?
Je ne tiens pas à le savoir.
Il insiste.
Y a-t-il pas une coutume qui accorde une ultime requête au condamné?
Puisque vous y tenez.
Elle le repousse, il l'attrape violemment, il tombe.
À nous de jouer maintenant.
Et James Bond lui monte dessus pour finalement l'embrasser. Elle résiste, puis succombe. Et dans les années 60 et 70, cette agression sexuelle, appelons-la comme il se doit, est même l'une des figures récurrentes dans les James Bond. Aujourd'hui, la société évoluant, Bond a dû aussi s'assagir. Un peu. Autre saga emblématique qui a marqué des générations d'adolescents, Star Wars. Rappelez-vous, dans l'Empire contre-attaque, Han Solo s'approche de la princesse Leia, lui prend les mains.
Admettez, il y a des moments où vous me trouvez très bien.
De temps en temps, oui, c'est possible.
Elle dit stop, mais il continue.
Cessez de faire ça.
De faire quoi?
Et l'embrasse.
Je vous plais parce que je suis un vaurien.
J'aime les hommes gentils, c'est vrai.
Encore une fois, le non est interprété comme un oui, comme une technique de séduction. Alors là encore, je vous entends, c'est du cinéma. Oui, mais justement, ce sont les premières images de héros auxquelles les jeunes garçons sont confrontés, auxquelles ils vont même s'identifier. Des collectifs féministes ont donc dû créer un slogan qui paraît pourtant bête comme chou, « Quand c'est non, c'est non ». Encore un dernier exemple avec Harrison Ford dans Blade Runner. Il tombe amoureux d'une femme androïde, Rachel, tente de l'embrasser. Elle essaie de fuir, mais il ferme la porte d'un geste brusque et l'embrasse, alors qu'une jolie musique de saxophone accompagne la scène dans une belle lumière tamisée. Alors on vous a volontairement parlé de sagas emblématiques du cinéma mondial, mais les films français ne sont pas en reste. Dans À bout de souffle, par exemple, Belmondo harcèle Jean Seberg pendant de longues minutes, dans une chambre d'hôtel, jusqu'à ce qu'elle cède.
Qu'est-ce que tu fais ?
J'enlève ton chandail ?
Pas maintenant, Michel.
Oh, tu es énervante, à quoi ça rime ? Qu'est-ce qu'il y a ?
Je vous regarde jusqu'à vous me regardiez plus.
Moi aussi.
Finalement, un homme qui ne demanderait pas son consentement à une femme serait vu comme un peu trop fleur bleue, pas assez viril. Mais le cinéma est en train de changer lui aussi et de faire sa mue. Le livre Le consentement de Vanessa Springora va bientôt être adapté au cinéma. Elle y raconte l'emprise qu'avait sur elle l'écrivain Gabriel Matzneff. L'emprise est aussi le sujet de The Tale avec Laura Dern, présenté au Festival de Deauville. La réalisatrice Jennifer Fox met en scène sa propre histoire, celle d'une ado de 13 ans violée par son entraîneur d'équitation. Elle sera persuadée pendant des années qu'elle a vécu une relation amoureuse. Le film est sorti il y a 2 ans en France sous le titre « Le passé recomposé ». L'emprise, c'est aussi le sujet du film qui nous a inspiré ce récit. Il devait sortir mercredi prochain, il a été repoussé de quelques semaines, confinement oblige, mais son thème reste plus que jamais d'actualité. Le titre, Slalom, signé Charlène Favier.
Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Tu t'entraînais à Lyon, c'est ça ?
Oui.
Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici.
Histoire d'une jeune espoir du ski, Lise, âgée de 15 ans, qui va être entraînée, coachée, puis hébergée par Fred, incarné par Jérémy Régnier. Lise va tout faire pour qu'il soit fier d'elle, jusqu'à, pense-t-elle, en tomber amoureux.
Moi, je vais rester avec toi toute la vie. T'as dit que tu ne me laisserais pas tomber.
Et c'est là que le film devient très intéressant. Car cet amour n'en est sans doute pas un. C'est d'abord l'envie de réussir, l'envie d'être aimée, l'envie de ne pas décevoir qui motive Lise, elle-même un peu perdue dans ses sentiments, jusqu'à ce soir où ça va trop loin.
Je vais parler à quelqu'un. Regarde-moi dans les yeux. Il faut que ça reste entre nous, ce qui s'est passé.
C'est pas ça.
C'est quoi, là ?
Regarde, là, j'ai mal.
Ouais.
Là aussi.
Cette thématique du harcèlement sexuel dans le milieu du sport n'est pas sans rappeler le scandale dans le patinage artistique français d'il y a quelques mois, ou dans le milieu de la gymnastique aux États-Unis. Autre fait marquant dans le film, Lise est seule dans ce centre de formation, délaissée par sa mère. C'est donc une proie facile.
Mademoiselle Lopez, vous aviez un excellent dossier scolaire, c'est pour ça que nous vous avons pris ici. Alors là, votre moyenne est en chute libre. Vous pouvez nous expliquer ?
Tu m'as pas dit ça ?
Oui, alors il faut trouver une solution, Madame Lopez. Est-ce que vous pouvez aider votre fille le soir un peu pour les devoirs ?
Non. Avec mon nouveau job à Marseille, je ne vois pas comment je peux faire. Hein.
Vous voulez dire que Lise est toute seule ici ?
J'ai peut-être une solution. Je ne l'ai jamais fait pour personne, mais je pense que réellement, Lise a du potentiel. Ce que je propose, c'est qu'elle vienne chez nous.
C'est une démarche assez inhabituelle quand même, hein ? Madame Lopez ?
Je ne sais pas.
Et justement, dans un instant, on accueillera Charlène Favier, la réalisatrice de Slalom, pour parler de cette histoire de consentement et d'emprise au cinéma, un an après les révélations d'Adèle Haenel. On va d'abord faire une petite pause musicale dans Clap en écoutant Aretha Franklin, Respect. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, Clap.
Thank you.
Respect, signé Aretha Franklin dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma sur Europe 1. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de notre récit consacré à l'emprise et au consentement.
Clap, Mathieu Charrier.
Et on poursuit notre réflexion dans Clap autour de l'emprise et de sa représentation au cinéma, un an après le témoignage d'Adèle Haenel, et alors que sort mercredi prochain, je vous en parlais tout à l'heure, Slalom, réalisé par Charlène Favier, que j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est vrai que votre film fait écho à pas mal de faits d'actualité, et même de faits d'actualité dans le milieu du sport, puisqu'on a vu des histoires dans le tennis, dans le patinage artistique, de ces entraîneurs qui ont des telles emprises sur leurs jeunes pousses, on va dire, que ça peut tourner mal. Est-ce que vous, c'est cette actualité-là qui vous a inspiré, ou cette question-là plus largement ?
Alors, pas du tout cette actualité, parce que moi, j'ai commencé l'écriture de ce film en 2014, lorsque je suis rentrée à l'atelier scénario de la Fémis. Donc c'était bien avant MeToo qui est arrivé en 2017 et puis bien avant les révélations d'Adèle Haenel et de Sarah Bitbol qui sont arrivées. Là, pour le coup, le film était terminé. Donc c'est pas de l'actualité. Après, oui, c'est l'envie par contre de faire bouger les lignes, de briser une omerta. Voilà, c'est un sujet qui existe depuis toujours. Il n'y a pas que moi qui le savais. Hein. J'ai d'ailleurs, pendant l'écriture du film, lu le livre Service volé d'Isabelle de Mangeau qui existe. Voilà, il y avait déjà pas mal de choses. Hein. J'ai fait quelques petites recherches. Il y avait un rapport interministériel qui avait été demandé par Roselyne Bachelot en 2007. Voilà, non, il y avait peu de films, mais en tout cas. Et puis moi, j'ai eu un pied dans le sport depuis toujours. Je continue à en faire beaucoup. Et donc, évidemment, quand on est un peu dans ce milieu, qu'on a envie d'ouvrir les oreilles et les yeux et de regarder un peu les choses en face, on entend beaucoup de choses. Et là, il y avait, en tout cas pour moi, matière à faire un film justement dénonciateur. Et pas que d'ailleurs. Voilà.
Parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit bien comment ces entraîneurs, en l'occurrence Jérémy Régnier, mais on imagine que c'est le cas souvent, ont une telle emprise psychologique et même physique sur ces jeunes espoirs du sport en général, ou d'autres d'ailleurs, que cette emprise finalement fait que les sentiments sont troubles. C'est-à-dire que la jeune skieuse de votre film, il y a des moments où on sent bien qu'elle-même ne sait pas très bien où elle en est et qu'est-ce qu'elle ressent pour cet entraîneur.
Bien sûr, surtout qu'en plus, c'était le film est entièrement filmé du point de vue de Lise. Ça, c'était très important, parce que ça aurait pu être un film complètement différent, qui aurait été beaucoup plus analytique, factuel, où on aurait observé les deux personnages. Non, là, les choses sont vraiment vécues de son point de vue. Et en effet, cette jeune fille, alors là, dans le film, elle est assez seule, sa mère n'est pas là, son père est absent. Et surtout, elle cherche le regard de l'autre. Elle cherche une place, elle cherche sa place. Elle est en quête identitaire totale. Et donc, évidemment, quand elle voit ce coach qui n'est d'ailleurs pas du tout décrit dans le film et qui n'apparaît pas comme un serial abuseur, qui apparaît plutôt comme un mec assez... Non, il est charismatique, il est plutôt sympa. Alors après, il est dur, mais ça, j'ai envie de dire, c'est la méthode de base de tous les entraîneurs. Donc ça lui fait pas peur, à la petite Lise. Voilà, d'un seul coup, quand elle voit que ce qu'elle fait... Alors, sportivement, l'intéresse, elle se dit « Oh, génial, enfin, j'ai quelqu'un qui m'observe, qui me regarde. » Donc, c'est un film, d'ailleurs, aussi sur le quiproquo, sur le regard, puis aussi sur le geste, parce qu'après, il y a plusieurs moments dans le film où un geste, à un certain endroit, finalement, renvoie un message. S'il n'est pas bien accompagné, bien expliqué, peut avoir... Voilà,
Parce qu'en plus, on est évidemment dans des milieux où on parle beaucoup du corps, du physique, où on regarde beaucoup le corps, le muscle. Donc, évidemment, il y a une ambiguïté aussi sur ce plan-là.
Bien sûr, le corps aussi, c'est vraiment un film, le corps est central dans la mise en scène, dans l'écriture aussi. D'ailleurs, c'est un film où il n'y a pas tant de dialogue que ça. Tout se passe vraiment, mais encore une fois, le regard, les attitudes, les gestes, qui souvent disent plusieurs choses à la fois. Et justement, si on n'a pas une bonne lecture, eh bien, on peut voir quelque chose d'autre, ça peut porter à confusion en tout cas. Mais le corps, oui, le corps, c'est d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai choisi Noé Habitat et Jérémy Régnier, parce qu'ils ont une physicalité très intéressante tous les deux. C'est des acteurs qui incarnent vraiment les personnages avec leur corps, qui changent physiquement. Noé, elle a fait un travail extraordinaire. Mmh. Elle est rentrée dans le corps de cette sportive, et Jérémy, voilà, il incarne aussi cet ancien sportif déchu, et tout ça, ça passe par le corps.
Est-ce qu'il y a un moment où le personnage de Noé éprouve des sentiments pour cet entraîneur ou pas ? Je parle de sentiments amoureux.
Je pense que oui, elle peut à un moment se demander, en tout cas, est-ce que c'est ça l'amour ? Parce que cette petite Lise de 15 ans ne connaît ni l'amour, ni la sexualité. Elle ne connaît pas grand-chose finalement à la vie des adultes et c'est justement elle va un peu rentrer dans ce monde-là de manière un peu violente. Mais oui, à un moment justement, c'est encore ce quiproquo de regard quand il la regarde et qu'il lui dit c'est bien. Il y a un moment rien que ça, ce mot c'est bien. D'un seul coup, elle tombe un peu amoureuse. Alors elle ne sait pas vraiment ce que c'est tout ça. Mais et je pense que lui aussi. Lui tombe finalement un peu amoureux à un moment de ce qu'il est en train de construire avec elle, de ces Jeux Olympiques qu'il va peut-être,
voilà, que lui n'a pas eu,
qu'il va peut-être atteindre par procuration, tout ça, c'est aussi l'adrénaline, le sport. Il y a aussi, alors il y a une perte de repères quand même parce qu'on est dans des milieux clos, il y a plus vraiment d'intimité, le rythme n'est pas celui du monde réel mais celui qu'impose l'entraînement, et d'un seul coup tout ça est un peu brouillé. Et d'ailleurs le personnage de Jérémy Régnier, qui est un adulte et qui doit évidemment, normalement, savoir ce qu'il fait et s'arrêter, et voilà. Et là, on sent qu'il est complètement dépassé, pas uniquement par sa pulsion sexuelle, mais avant ça, ce qui va l'amener à justement à ne pas réussir à brider cette pulsion, bah, par l'adrénaline, la victoire. D'un seul coup, il mélange tout et il se laisse embarquer là-dedans. C'est aussi finalement une... Je pointe du doigt aussi ce que le système sportif de haut niveau peut aussi... à certains moments, être un peu complexe, s'il n'est pas bien encadré, on peut très vite en fait perdre pied quand même.
Et il y a une scène de viol, sans révéler toute l'intrigue, mais vous en parliez. Comment vous l'avez tournée? Comment vous l'avez imaginée? Comment vous l'avez préparée?
Alors, pendant l'écriture de Slalom, donc ça a été très long, j'ai tourné un court-métrage qui s'appelle Odol Gori en 2017. Justement, pour me focaliser sur cette séquence-là, c'était un peu une répétition générale, même si c'est pas la même histoire, mais on retrouve d'ailleurs Noé Habitat, que j'ai rencontré à l'occasion du tournage de ce film. Et donc, on a un peu défriché les choses. Et en fait, cette scène, elle est tournée comme tout le reste du film, et c'est ce qu'on a trouvé sur Odol Gori, qui est le court-métrage avant de le faire sur Slalom. C'est qu'elle est tournée entièrement du point de vue de Lise, et c'est le corps émotionnel qu'on filme. C'est vraiment les émotions, le ressenti de Lise. D'ailleurs, c'est presque uniquement un plan sur son visage. Il y a très peu de corps filmés, il n'y a rien de voyeur, on n'est pas du tout, j'ai fait très attention, je ne voulais surtout pas érotiser cette relation. Et d'ailleurs aujourd'hui on me dit, Charlène, tu as fait du female gaze, alors moi c'est le genre de truc que je n'ai pas du tout conscientisé et tout ça, mais en tout cas voilà, c'est sûr que cette séquence elle est vécue du point de vue de cette gamine, et nous on ressent très fort ce qu'elle ressent, et donc du coup ça fait mal, ouais.
Si on prend un peu de hauteur, comment vous expliquez que dans l'histoire du cinéma, des grands héros masculins de cinéma, il y a toujours ce côté séducteur tel qu'on le représentait à une certaine époque? C'est-à-dire qu'il faut un peu forcer la jeune femme, je pense à James Bond, on en parlait tout à l'heure, mais comment ça se fait que pendant si longtemps, le cinéma a charrié cette image-là?
Mais parce que le cinéma charrie ce que la société lui donne comme représentation, donc... voilà, après c'est quand même dommage que... Après c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup, je pense, de réalisateurs peut-être masculins à l'époque, qui étaient eux-mêmes portés par ces images-là, qui reproduisaient peut-être même chez eux, autour d'eux. Enfin voilà, il y avait... c'est tout le poids du patriarcat et de tout ce que ça représente. Et je pense qu'aujourd'hui les choses bougent. Comme voilà, on est aussi de plus en plus de femmes réalisatrices et c'est très bien. Et je pense qu'on va être encore de plus en plus. Et ça y est, on sent que les représentations sont en train de bouger. Voilà. Et moi d'ailleurs, je suis très heureuse de finalement faire partie un peu malgré moi de la suite de ce mouvement MeToo, parce que moi j'étais pas du tout. Je me suis retrouvée finalement. Mon film se retrouve là-dedans, mais on a besoin de plusieurs messages. On a eu le film Les Chatouilles d'Andréa Bescon qui est différent du mien mais qui est aussi nécessaire, le livre de Vanessa Springora qui est aussi très utile, enfin il y a plein le livre Sorcière de Manon Chollet, enfin voilà, j'ai l'impression que d'un seul coup il nous faut, et là moi avec Slalom j'arrive encore avec une autre manière de raconter ça, cette zone grise, le consentement, l'emprise. J'essaie de décortiquer les choses autrement, mais je pense qu'il faut en tout cas plusieurs voix d'artistes, de femmes, et pas que des femmes, des hommes, parce que les hommes peuvent aussi très bien parler des femmes, et les femmes très bien des hommes.
Mais c'est une question intéressante, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de films ou de livres, tout ce que vous citiez, fait par des femmes.
Oui, c'est vrai, parce qu'il y a je pense qu'il y a un vrai besoin. D'un seul coup, la femme sent qu'elle a... elle peut revendiquer des choses importantes, et d'un seul coup, elle est entendue. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça, le truc, c'est qu'il faut être entendu. Moi, j'ai bien senti, pendant l'écriture du film, l'omerta. je l'ai senti parce que personne n'avait envie de financer ce projet.
Ce que j'allais dire, ce que vous dites, ça fait plusieurs années que vous travaillez dessus et que ça s'est débloqué quand même relativement récemment, avant MeToo, mais quand même ces
bien
dernières
sûr,
années.
Bien sûr, et on me disait, ah oui, c'est intéressant, mais les films de sport, ça marche pas. Je disais aux financeurs, je leur disais, écoutez, c'est pas un film de sport. Ou alors, vous êtes en train, c'est un face-à-face, c'est une histoire d'emprise, ça parle du consentement, ça parle de la relation entraîneur-entraîné, c'est pas un film de sport. Il y a du sport. Le sport, il est là pour donner le coup de fouet, pour donner l'adrénaline, le vertige, la pesanteur, enfin, toutes ces sensations avec le ski, voilà, mais c'est pas un film de sport. Et en fait, je pense que la vraie raison, c'est qu'on n'avait pas du tout envie de parler de ça, qu'on ne savait pas comment en parler. Et voilà, donc petit à petit, les choses, je pense que finalement, MeToo est arrivé en 2017, on a réussi à financer le film avec très peu de choses quand même, mais peut-être que ça a été nécessaire. En tout cas, moi, ça m'a donné aussi le courage, parce qu'à un moment, j'ai failli renoncer, hein, quand tout le monde, on sent qu'il y a les portes se ferment, et puis on a peur aussi, j'ai ressenti franchement une espèce de peur de parler de ça.
Parce que
c'est très compliqué d'en parler, les gens n'ont pas vraiment envie de l'entendre, donc d'un seul coup on arrive avec ce sujet, est-ce qu'on est légitime, comment est-ce qu'on va en parler, voilà, on n'arrête pas de nous dire attention c'est compliqué, ça fait peur, ça n'intéresse personne, donc à un moment on a envie un peu de renoncer, donc je pense que finalement le MeToo, Adèle Haenel, tout ça, bon là j'avais fini, mais donc plutôt le MeToo, mais ça m'a donné un petit coup de fouet et la force et le courage de continuer la bataille quoi.
Et c'est donc à voir dans Slalom. Merci beaucoup, oui, Jeanne Favier, de nous avoir rendu visite dans Clap. Nous, on se retrouve dans un petit instant. On va rester d'ailleurs un peu dans les mêmes thématiques, puisque pour les films de ma vie, c'est Lola Lafont qu'on va recevoir aujourd'hui et qui va nous raconter ses grands souvenirs de cinéma. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et on se retrouve donc dans Clap pour les films de ma vie. Vous connaissez le principe désormais de cette séquence. Une personnalité qui répond à un questionnaire de Proust, mais version cinéma. Et cette semaine, c'est la romancière Lola Lafont qui a accepté de se prêter au jeu. Bonjour.
Bonjour.
Autrice notamment de Chavirer chez Actes Sud, qui est sorti il y a quelques semaines, dans lequel il est question justement d'emprise notamment. C'est pour ça que je voulais vous recevoir dans cette émission. Bon, on passe à notre questionnaire. C'est parti.
Je suis prête.
Votre premier souvenir de cinéma ?
Mon premier souvenir, c'est un Américain à Paris. Et je l'ai vu quand j'étais petite à Bucarest, puisque j'habitais à Bucarest. Et c'était une étudiante qui me gardait, qui m'a emmenée.
C'est formidable !
C'est magnifique !
Ah !
Wonderful ! It's marvelous ! She should care for me.
Et quelle a été votre séance de cinéma la plus dingue ?
Ma séance de cinéma la plus dingue, sans conteste, c'est une anecdote étrange, mais c'est Festen, que j'ai adoré.
Je vous voudrais faire un petit discours. C'est une espèce de discours de vérité. J'ai choisi de l'intituler « Quand père prenait son bain ».
Et scène terrible du moment où le fils tape avec son verre, avec le couteau, pour dire ce qu'il a vécu.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains. Pour ça, il nous emmenait, Linda et moi, d'abord dans son bureau. Alors il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte qu'on a mise à la poubelle depuis, et il nous violait. Il abusait de nous. Il avait des rapports sexuels avec ses chers petits. Et j'ai pensé que ce serait bien que je le partage avec ma famille. Ça s'est produit en hiver, en été, en automne, au printemps, le matin, le soir. Et nous sommes tous réunis ici ce soir pour fêter les 60 ans d'Helg. Quel vénard !
Et là, quelqu'un dans la salle se met à ricaner. Et là, je deviens dingue. Et avec mon copain de l'époque, on a engueulé le mec. Et ça a été une bataille rangée, je vous jure que c'est vrai.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre ?
Sans hésitation, un film de Douglas Sirk, Mirage de la vie, à cause des couleurs et des vêtements.
Il veut que j'aille prendre le texte immédiatement. Je passe l'audition demain.
Et vous y allez ?
Bien sûr, voyons.
Après ce qui s'est passé la dernière fois.
Oh, mais ça n'a rien à voir avec Loomis. Je vais auditionner pour David Edouard.
Et vous êtes certaine qu'il est différent de Loomis ?
Non, je n'en sais rien.
Alors je vous défends d'y aller.
J'aimerais bien savoir de quel droit vous faites ça.
Parce que je vous aime, c'est la seule raison.
Non, Steve, je suis désolée. Bonsoir.
Voilà, tout est tellement soigné, tout se répond, la musique, les décors, c'est un monde parfait en fait.
Et quel est le film culte que vous n'avez jamais vu ?
Je n'ai jamais vu, attention, Star Trek. Je sais, c'est étrange. Ça s'est trouvé comme ça et à force, c'est devenu avec mes amis un sujet. Voilà, je continue à ne pas le voir pour garder cette réputation.
État du vaisseau parfaitement opérationnel. Spock, en avant toute.
À force, tout le monde me l'a raconté mille fois parce qu'à chaque fois que je dis que je ne l'ai pas vu, on me le raconte et donc j'ai plus envie de le voir.
Et le film que vous aimez, mais que vous avez honte d'avouer?
Ah, j'ai honte de rien. Je vais vous dire franchement, il y a des films que j'aime vraiment bien et je n'ai pas honte du tout. Par exemple, le film avec Reese Witherspoon, La revanche d'une blonde, je le trouve excellent. Et à chaque fois que je le dis, les gens ont la mâchoire qui se décroche, mais franchement, c'est très très bien.
Une école de droit?
Papa, c'est très respectable comme étude.
Mon lapin, tu es arrivé deuxième au concours de Miss Hawaiian Tropics cette année. Pourquoi vouloir envoyer balader tout ça?
Aller à Harvard, c'est le seul moyen de récupérer l'amour de ma vie.
Oh, mon chou, ne fais pas du droit. Le droit, c'est pour les gens qui sont ennuyeux, très laids, sérieux. Et toi, bout de chou, t'es rien de tout ça.
Mais en fait, je pense que c'est un film... Le titre français est affreux. Ça a l'air vraiment idiot et en fait c'est une comédie. D'abord elle est fabuleuse, elle a un timing de comédienne qui est incroyable et puis en fait c'est à la fois drôle et elle compose ce personnage de fausse idiote qui va remettre tout le monde à sa place, donc voilà, je trouve très très bien écrit.
Mais c'est pas dur d'entrer à Harvard? J'ai les meilleures notes de toute la section. Ah bon? Tiens, t'auras besoin de ce truc là. Tu me donnes ton chouchou? Oui, mon chouchou porte-bonheur.
Quel est le film que vous avez le plus vu?
Alors, le film que j'ai le plus vu, c'est un film culte entre ma mère et moi. C'est Nos plus belles années de Sidney Pollack. Je pense qu'on en parle encore souvent, elle et moi. Je l'ai vu quand j'étais très, très petite et je le revois très régulièrement. Je peux pleurer, si je vous raconte la fin, je recommence à pleurer, la fin est déchirante. La chanson de Barbara Streisand, la beauté à la fois de Streisand et de Redford. Et puis aussi la thématique de l'engagement et de l'écriture, puisque ce scénariste qui n'arrive pas vraiment à ne pas céder à Hollywood, c'est un très très beau film.
Alors, le chef-d'œuvre que vous détestez?
Le chef-d'œuvre que je... Alors, c'est dur parce qu'il faudrait s'entendre sur le mot chef-d'œuvre. Alors, je vais faire hurler, mais je déteste Pulp Fiction. Et j'en ai même parlé dans un de mes romans. Dans mon troisième roman, dans Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce, je lui consacre quelques lignes. Je n'aime vraiment pas ce film. Je le trouve louche. Encore une fois, bon, ça revient encore sans doute à une thématique qui est très importante pour moi, c'est les violences. Et il y a cette scène où le personnage, et je ne me rappelle plus de son nom, je ne me rappelle d'aucun nom d'ailleurs, il y a un homme qui en viole un autre, celui qui est violé est noir, et il y a une sorte d'ambiguïté dans la manière de filmer qui, encore une fois, déclenche des rires, il y a une sorte de second degré que je trouve très très questionnable en fait.
Tu le veux, ce flingue, hein, Zed? Vas-y, prends-le.
Bouge de là, Butch.
Et le film que vous auriez aimé voir au cinéma?
Ah oui, bah écoutez, le vieux Poséidon.
De la station sismographique d'Athènes, lieutenant.
Séisme sous-marin, 7/8 sur l'échelle Richter. Épicentre à 130 000 au nord-ouest de la Crète.
J'adore les films catastrophes des années 70 et malheureusement, je ne les vois pas en salle et j'adore ça. J'adore les vieux films catastrophes. Donc, Les Aventures du Poséidon.
Et pour finir, quelle est la bande originale qui a le plus marqué votre vie?
Cabaret de Bob Fosse.
But gather together to greet the star.
Il y a cette scène incroyable où la caméra est en gros plan sur le visage d'un petit garçon adorable, blondinet, vraiment très émouvant, qui chante avec une voix cristalline. Et puis, le plan s'agrandit et on découvre que ce sont les jeunesses hitlériennes. Et c'est cette façon de passer d'un plan rapproché à un plan large qui est une narration formidable parce qu'on découvre l'horreur de la scène sans qu'il ait besoin de dire un mot. C'est un chef-d'œuvre, vraiment. C'est-à-dire que la chorégraphie est merveilleuse, mais la musique est formidable. Et puis le propos, la montée du nazisme. Liza Minnelli, c'est le rôle de sa vie. J'adore ce film.
Welcome and bienvenue. Welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, tout cabaret.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ik ben euer conférencier.
I am your host, Sergeant.
Nicolas Lafond d'être venu nous rendre une petite visite dans Clap et je rappelle donc votre livre formidable qui s'appelle Chavirer, c'est sorti il y a quelques semaines.
Merci.
Nous on se retrouve dans un instant pour la suite de Clap. Je vais accueillir mes collègues critiques pour débattre des films non pas sortis en salle puisque les cinémas sont fermés mais sortis sur les plateformes ou en DVD, VOD. On parlera notamment du dernier film de Sofia Coppola et de Bronx signé Olivier Marchal.
Clap. Mathieu Charrier.
Et on se retrouve donc dans Clap pour la suite de votre émission cinéma. Alors oui, les salons fermés, mais le cinéma continue de vivre, notamment à travers les plateformes, les sorties VOD, DVD. Et pendant ce confinement, on va donc vous accompagner avec vos critiques habituelles pour, j'espère, vous donner envie de regarder des films chez vous. Aujourd'hui, autour de la table, Fabrice Leclerc de Paris Match. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et Thierry Chaise de Première. Bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu.
Alors au programme, donc Bronx, le nouveau film d'Olivier Marchal qui est sorti sur Netflix. On débattra aussi d'On the Rocks, le nouveau Sofia Coppola qui lui est sorti sur Apple TV. Ça fait bizarre de dire ça comme ça à la place des films qui habituellement étaient en salle. Et puis on débattra de Filles de joie qui est désormais disponible en VOD DVD porté par Sarah Forestier et Noémie Lovski. On essaiera aussi de dire un mot du dernier film de Judd Apatow qui lui aussi sort en DVD. Mais on commence donc avec Bronx, le nouveau film d'Olivier Marchal.
Je tenais également à remercier monsieur le maire de la ville de Marseille et à ce titre, je me dois de féliciter chaleureusement l'ensemble des effectifs de la BRI, une ville que nous adorons, mais dont nous connaissons malheureusement tous les dangers.
Et Olivier Marchal qui revient donc à Marseille, 12 ans après Amer 73, dans les quartiers nord, où une nouvelle fois, la BRI et la BRB vont s'opposer alors que deux clans de trafiquants de drogue se livrent une guerre sans merci. Il y a une tuerie au cœur de l'enquête et comme souvent, les policiers sont obligés de flirter avec la légalité. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus pour résumer le film. Il fait sombre, les flics sont très musclés, certains ont des montants en cuir, ça tire dans tous les sens. Voilà, dit Olivier Marchal, pur jus, mais réussi ou non, Thierry Chaise.
Oula. Si on n'a jamais vu...
J'aime bien le silence.
Si vous n'avez jamais vu un seul film d'Olivier Marshall, peut-être. Le problème, c'est qu'on connaît depuis plusieurs films tout justement ce qui fait l'univers d'Olivier Marshall. Qui, lors des premiers films qu'il a pu faire, cité Mars 73, on peut citer Transiquet des Orfèvres, fonctionnait parce qu'il y avait un truc à lui, parce qu'il y a un truc qui est aussi attachant que ce qui peut être lui. C'est-à-dire, on sent une énergie, une volonté de faire du cinéma et tout. Sauf que là, au bout d'un moment, les flics sont ripoux, enfin pas tous, puis finalement tous, et au bout d'un moment, puisque tout le monde est ripoux, on fait un tour, le film fait un cercle sur lui-même en presque 2 heures, qui est un peu long. Et la deuxième chose, moi, qui me gêne, c'est que dans les premiers films d'Olivier Marshall, il s'appuyait sur un casting vraiment haut de gamme, c'est-à-dire qu'on avait quand même du Auteuil, du Depardieu. Là, on descend à un certain niveau. Alors, on peut être intrigué.
Jean Reno, quand même.
On peut être...
oui. Gérard Lanvin.
Oui, en tout petit. Toute petite chose. Non, on peut être intrigué. On se dit, ah, c'est la grande rencontre entre Claudia Cardinale et Caris, par exemple. Mais c'est un peu comme dans
Claudia Cardinale
et
De Niro joue...
ne se croisent pas. Eh bien, là, c'est un peu pareil. Non, en fait, il me manque, quoi qu'il arrive, quelque chose. Les acteurs, en plus, moi, je trouve, sont à un niveau
bon.
En dessous. Et j'étais
alors,
dessus.
Fabrice Leclerc.
Alors, Claudia Cardinale, vous en parliez un instant. Thierry joue une chef mafieuse. Ah. Hein, donc ça, c'est déjà un élément. Le deuxième élément, qu'est-ce que je pourrais dire, 36 quai de la Canebière.
Voilà. Ouais.
Voilà, parce que ça ressemble quand même beaucoup à 36 quai des Orfèvres. Après, oui, ce que dit Thierry est tout à fait vrai. Moi j'aime le cinéma policier. J'ai une petite tendresse pour Olivier Marshall.
Aussi,
et pour les films qu'il a fait. Parce que, voilà, il a amené du good cop, bad cop dans le cinéma français. Voilà, malgré tous les excès qu'il peut y avoir, là, vraiment, ça ne fonctionne pas pour le coup. Là, vraiment, c'est une redite. On est à Marseille. Alors, oui, le film est noir, mais Marseille est extrêmement lumineuse. Oui, les flics sont tous ripoux, pas ripoux, mais entièrement un peu ripoux, un peu plus que les mafieux, qui sont moins mafieux que les mafieux. À un moment, stop, quoi. Faisons autre chose, racontons d'autres histoires. Alors, moi, je ne trouve pas que le casting soit si mauvais que ça.
C'est Yannick Gautry, notamment, qui voilà, joue un des rôles principaux.
Ouais. Et c'est un très, très bon acteur qui bosse souvent en télévision, qu'on avait vu quelques fois au cinéma. Et je trouve qu'il arrive à sortir son épingle du jeu face à Jean Reno et Gérard Lanvin, qui font du Jean Reno et du Gérard Lanvin.
Il faut dire qu'il y avait Bac Nord qui devait sortir dans quelques semaines au cinéma, toujours dans les quartiers nord de Marseille.
Vous allez voir la différence. Voilà. J'espère qu'il va sortir en salle et vous verrez une différence très, très grande.
On aura l'occasion d'en reparler. Voilà en tout cas pour Bronx, le nouveau film d'Olivier Marshall que vous retrouvez sur Netflix.
Clap.
Deuxième film dont on débat aujourd'hui, cette fois c'est sur Apple TV, c'est On the Rocks de Sofia Coppola.
Tu travailles beaucoup ?
Ouais. Dean est tout le temps en déplacement avec des clients et moi, je suis la rabat-joie de service qui veut faire des plannings. Je fais un blocage.
Levez la main si vous trouvez ça foireux.
Dean n'a rien à voir avec toi.
C'est sa nature. Les mâles doivent lutter s'ils veulent dominer et féconder toutes les femelles.
Et l'on suit donc Laura, délaissée par son beau mari, absent depuis qu'il a monté une boîte qui marche bien. Elle doit s'occuper de leurs 2 filles, elle est épuisée. Et un soir, elle tombe sur un humoriste à la télévision qui fait des blagues sur la fidélité dans le couple. Elle se dit tiens, ça lui met la puce à l'oreille. Et si mon mari me trompait ? Après tout, il est tellement absent. Laura a alors une idée, faire appel à son père, qui est joué par Bill Murray, marchand d'art bourré d'humour grinçant. Et ensemble, ils vont partir sur les traces de ce mari suspecté entre New York et le Mexique. L'occasion surtout, vous l'imaginez bien, de se retrouver entre père et fille. Fabrice Leclerc.
Alors c'est assez intéressant parce que comme pour Bronx, on peut quasiment comprendre ce que va être le film en vous écoutant raconter l'histoire.
Ouais.
Donc voilà, on y retourne une deuxième fois. Écoutez, oui, c'est totalement léger comme peuvent l'être les films de Sofia Coppola. Moi j'ai l'impression de lire les pages culture de Cosmopolitan quand je vois ces films. C'est anodin. Alors ça se passe à New York. Il y a de la musique jazzy. Donc voilà, hein, Woody, si tu nous entends. Bon week-end. Je trouve que le film est très vain. Bill Murray est absolument extraordinaire, mais comme d'habitude, il a toutes les répliques qui claquent. Et comme d'habitude, le reste est quand même assez convenu. Cette recherche de l'infidélité, le papa et la jeune fille, enfin, ça n'a ni queue ni tête. Et puis, attendez, non, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on cite quand même A24, le producteur, dans le film. Il y a des produits Apple partout. Alors, je sais, j'ai mauvais esprit, mais enfin quand même.
Thierry Chaise, sauvez-moi ce On the Rocks.
Moi, je vais le sauver parce que moi, j'aime beaucoup Sofia Coppola. Je suis d'accord quand on dit que c'est tout léger et tout ça, mais moi, je trouve que faire léger n'est pas toujours simple.
Je ne dis pas que c'est simple.
Non, mais je trouve qu'elle le réussit.
Mais il faut que ce soit fait avec matière.
Elle le réussit parce que c'est la première fois, moi, je trouve déjà que c'est un film avec énormément de dialogue, qui est très bavard. D'habitude, on est dans les grands silences et que ça marche, oui, grâce à Bill Murray, ça marche beaucoup grâce à Rashida Jones. fille de Quincy Jones, qu'on a jusque-là vu surtout dans des séries, son premier rôle au cinéma. C'est un portrait de son père aussi, et de la génération de son père. Je trouve que le portrait, justement, de ces hommes flamboyants, séducteurs, dans leur rapport aux femmes notamment, est aussi tendre qu'infiniment Vachard. Et puis, c'est vraiment, ça devient un film historique, parce que cette balade dans les rues de New York, Woody Allen est assumé, puisqu'on est en plus vraiment dans son quartier, mais cette balade-là, on se dit, mais quand est-ce qu'on la refera? Donc on en sort triste, joyeux. Moi, j'avoue, j'aime beaucoup Sofia Coppola et j'aime beaucoup ces toutes petites variations qui, moi, me font.
Et Thierry, je vous connais assez quand même pour savoir que vous aimez la grande mise en scène. Vous n'allez pas me dire que Sofia Coppola se répète.
Mais ce n'est pas par la mise en scène. Le prix de la mise en scène à Cannes, d'ailleurs, pour les proies, était d'ailleurs très étonnant par rapport à son travail. Moi, c'est sa direction d'acteur et c'est la mélancolie qu'elle arrive à glisser dans ses films qui, moi, me touche. Mais il faut que je me mette plus à lire Cosmopolitan et
voilà. Pour On the Rocks, signé Sofia Coppola, que vous retrouvez depuis quelques jours sur Apple TV.
Clap.
Alors, on va basculer du côté des DVD et de la VOD maintenant avec ce troisième film dont je voulais qu'on débatte aujourd'hui, c'est Fille de joie.
Quand on n'a même pas le bac, on ne peut pas espérer décrocher la lune.
Circé, Lola, Hera, Sherazade. Pour les prestations, 100 euros la demi-heure, 130 et trois quarts d'heure.
Vous vous connaissez ?
C'est la babysitter de mes enfants.
Fille de joie qu'on avait eu la chance de découvrir en salle, ça fait bizarre de dire ça, on a l'impression que c'était une éternité. Alors là, c'est l'histoire de trois femmes, Axel, Dominique et Conso, qui tous les matins se donnent rendez-vous sur le parking de leur cité pour traverser ensemble la frontière et aller en Belgique se prostituer, parce que là-bas, les maisons closes sont autorisées. Alors on va les suivre dans leur quotidien, évidemment pas toujours facile. Si elles ont décidé de se prostituer, c'est clairement pour des raisons financières, et elles doivent affronter au quotidien la violence de certains hommes, mais aussi et surtout de leurs entourages qui ne les comprennent pas. Toujours. Alors, je me suis remis un petit peu le film pour me remettre dans l'ambiance de l'époque. Je dois avouer que je ne l'avais pas adoré. Et en revoyant les images, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui m'étaient restées. Fabrice Leclerc.
C'est un film féminin, c'est un film de femme, c'est un film rentre-dedans. Et j'aime bien le film pour ça, parce qu'il y a un vrai ton, il y a une vraie hargne. C'est très hargneux comme film, finalement. J'ai juste, moi, un petit problème avec la représentation masculine dans ce film. Qui est quand même unilatéral. Et je pense que le film aurait gagné en proposant des personnages masculins un peu plus nuancés pour justement accréditer le propos de cette domination masculine et de cette horreur de l'homme quand il rencontre une femme. Voilà. Et puis le film hésite. Alors ça, je l'aime bien parfois et je trouve ça un peu trop à d'autres moments. Le film hésite trop souvent entre le drame, la comédie, entre la vacherie et l'amour. Je trouve qu'il y a trop de choses dans ce film, mais il y a plein de choses dans ce film. Voilà,
c'est,
je suis désolé.
C'est joliment résumé. Non, mais c'est Thierry, vous souscrivez ?
Moi,
Fille de joie ?
Je suis totalement à côté. Je trouve que... Alors, je suis tout à fait d'accord sur la hargne, je trouve ça très intéressant. Je trouve que vraiment, c'est un exemple où jamais on est à bonne distance de tous ces personnages-là. Parfois trop près, parfois trop loin, jamais bien. Du coup, moi je suis parfois gêné pour les comédiens parce qu'ils font vrai. C'est pas une question de qualité.
Elles sont bien,
Tout le monde est très bien.
Mais je trouve
qu'elle ne. Frédéric Fontaine, qui a vraiment fait des films beaucoup plus nuancés avec Laura Smet, avec Nathalie Baye, là, Et en effet, moi j'ai l'impression qu'on a envie un peu d'aller choquer le bourgeois avec ce film par moment.
C'est cru à certains moments.
Voilà, mais cru, ça pourrait être intéressant, c'était... Là, j'ai l'impression, regardez bien. Moi, je suis vraiment gêné, c'est le côté Monsieur Plus de Balzen, c'est qu'on a vraiment...
On ne cite pas de marque à l'antenne.
Non, mais on peut aussi citer...
J'ai cité Cosmopolitan.
Voilà. C'est bon. Oui, allez.
Non, mais ça me gêne, parce qu'on voit le message qui a envie d'être passé, mais on voit beaucoup plus le message que ce qu'on peut, nous, comme spectateurs, y trouver. Voilà.
Mais ça reste un film à voir, ça reste une
proposition originale.
Ses défauts, avec ses qualités, mais il y a quelque chose, il y a un ton. Mmh.
Voilà, et c'est Fille de joie que vous retrouvez désormais en DVD et VOD.
Clap.
Un autre DVD VOD qui vient de sortir. Alors là, en plus, le film n'avait pas du tout marché en salle au moment de sa sortie, et je pense que c'est une erreur. C'est le dernier film de Judd Apatow qui s'appelle The King of Staten Island.
I like your tattoos. What are those numbers on your arm?
Oh, that's the date my dad died. He was a fireman.
Knock, knock.
Who's there?
Not your dad.
The King of Staten Island, c'est donc l'histoire d'un jeune homme, Scott, qui a dû gérer la disparition de son père lorsqu'il avait 7 ans, un pompier mort en intervention. Alors il a mal grandi, si je puis dire. Aujourd'hui, Scott, il a 24 ans, il vit toujours au crochet de sa mère, il passe pas mal de temps à fumer de l'herbe, à traîner avec ses potes, Oscar, Igor et Richie. un équilibre qui lui convient pas si mal finalement, jusqu'au jour où cette même mère va se mettre à fréquenter un homme de nouveau, pompier. Et ça, Scott ne va pas du tout l'accepter, il va devoir affronter son deuil, ce qu'il n'avait jamais vraiment fait. Fabrice Leclerc.
Ce qui est intéressant déjà, c'est que ce film de Judd Apatow, qui est quand même, on le nomme le roi de la comédie américaine intelligente, n'est pas sorti en salle aux États-Unis, il est sorti directement sur une plateforme.
Et chez nous,
et Universal a quand même pris le pari de le sortir en salle cet été. Ça a eu un petit succès d'estime. Qu'est-ce que je pense du film ? Moi, j'aime beaucoup Judd Apatow. Je trouve que là, c'est un film extrêmement bavard.
Oui.
Beaucoup trop long. Où là encore, on se retrouve dans du social avec ce jeune garçon qui, voilà, qui n'a pas envie de grandir, qui fume des pétards et qui grogne parce que sa maman retrouve l'amour. Je trouve que Judd Apatow a perdu sa magic touch sur ce film. Je me suis beaucoup ennuyé. Alors oui, il y a des saillies. Il y a cet acteur, Pete Davidson, qui est absolument génial. Alors c'est un comique du Saturday Night Live aux États-Unis. Il est très connu là-bas. C'est un grand acteur. Il a une vraie personnalité. Dans un film long, bavard, besogneux, mais je sais que je suis très 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 minoritaire et que beaucoup de gens aiment ce film. Donc voilà,
là que Thierry Chaise intervient.
Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que, alors, en effet, ce n'est plus le roi de la comédie. C'est Adam McKay qui, au moment de la sortie de Vice, avait dit en fait, la comédie américaine a perdu de sa superbe quand Obama est arrivé, parce que d'un coup, on a perdu Bush. Et on n'avait pas encore retrouvé Trump. Et je trouve que le virage qu'il fait, ça fait plus de 6 ans qu'il n'avait pas réalisé. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus émouvant avec ce qui faisait sa patte habituelle, un peu de l'humour, des films longs, car les films qu'il fait sont généralement 2 heures, et puis l'esprit de Bond. Et c'est d'un seul coup ce portrait de cet homme à travers tous les gens autour de lui qui se fait. Et donc, il faut du temps pour raconter ça. En effet, il faut du temps. En effet, il faut plus de 2 heures. Je trouve que ça justifie. Moi, j'ai été ému. Je vois des grands numéros de comédiens et je vois un réalisateur qui sait se renouveler.
Voilà, il faut du temps. Ça tombe bien. On en a, Fabrice.
Mais moi, je vois 3 ou 4 films dans le film. Et je pense que le film aurait été plus court, centré sur ce personnage génial. Ça aurait eu beaucoup plus de force, même dans cette tendance beaucoup plus morale que défend Judd Apatow aujourd'hui. Voilà.
4 films pour le prix d'un.
Bah, c'est mieux, ça. Écoutez, bon argument de vente.
King of Staten Island en DVD, VOD. On a aussi parlé de Filles de joie, d'On the Rocks, de Sofia Coppola et de Bronx, d'Olivier Marshall. Merci, Thierry Chaise, première. À lire, là aussi on a le temps pendant le confinement, hein, acheter première en ligne, en kiosque, pour le lire, Fabrice Leclerc Paris Match également.
Mais oui.
Un numéro chaque semaine, il ne faut pas hésiter. Et comme on ne peut plus aller vous voir à la sortie des salles pour recueillir votre avis comme d'habitude, n'hésitez pas à vous l'envoyer, votre avis, vous prenez la petite fonction dictaphone de votre téléphone, écrivez-nous à clap@europe1.fr, vous aurez Marjorie Adelson qui va vous répondre, tout vous expliquer, vous donner le programme des semaines à venir et comme ça, on essaiera de recueillir vos impressions pour continuer à vous entendre dans cette émission. Merci aussi à Nicolas Baudin qui la réalise chaque semaine, malgré ce confinement. Et on se retrouve donc samedi prochain pour un numéro inédit de Clap, 14h-15h sur Europe 1, pour un nouveau numéro de Clap. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos podcasts sur toutes les bonnes plateformes. Vous tapez Clap, CLAP. Europe 1.